Alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire, tellement de concurrence, tellement de sollicitations de toutes sortes, tellement de chaînes de télévision, etc. Merci d'être là pour partager autour de Jacques Ellul. Et en disant cela, je suis déjà dans la pensée d'Ellul, cette pensée qui s'est inscrite dans notre société où on est tellement tiraillé, éclaté de toutes sortes, et on a besoin parfois de se recueillir, de se rassembler autour des questions essentielles. Je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui à Alès, parce que pour moi, c'est d'une certaine manière un retour aux sources, ou un pèlerinage aux sources. J'ai passé une année, une très belle année à Alès, il y a de cela quelques années déjà, lorsque j'étais pasteur stagiaire dans l'Église réformée. Et c'est au cours de cette année que j'ai passée ici même à Alès que j'ai découvert l'œuvre de Jacques Ellul. En effet, c'est à ce moment-là que notre regretté pasteur Pierre Coste m'avait parlé de Jacques Ellul, m'avait dit j'ai au cours de ma vie rencontré un prophète. Et donc, il m'a donné un livre de Jacques Ellul et j'ai commencé à le lire. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai vu qu'il y en avait 57 autres. Et donc, j'ai eu envie d'en lire un deuxième. Et de livre en livre, ainsi, j'ai lu les 58 livres de Jacques Ellul. Et puis maintenant, j'essaye de lire les quelques centaines d'articles qui sont dispersés dans toute une série de revues et souvent difficiles à trouver dans des revues de paroissiales ou dans des petites revues. Donc voilà, pour moi c'est un retour aux sources de ma découverte de Jacques Ellul. Je précise que je ne l'ai jamais rencontré de son vivant. J'ai donc travaillé sur sa pensée. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qu'il avait rencontrées. C'est un peu l'homme qui a vu l'ours. Mais je reçois maintenant un certain nombre de témoignages sur cet homme, mais je ne l'ai jamais connu directement. J'ai travaillé sur son œuvre. Je tiens aussi à préciser en préliminaire que je ne suis personnellement pas un inconditionnel de Jacques Ellul. Je suis séduit par la grande majorité de ses idées, mais je reste aussi quelque peu critique à l'égard de certains points. Jacques Ellul est mort il y a 16 ans, en 1994, il est né en 1912, et tout au long de sa vie, il est resté quelque peu dans l'ombre, quelque peu méconnu. Il était connu dans les milieux protestants, disons, et encore, il était peut-être connu de nom, mais je me rends compte qu'il n'était pas tellement lu, même dans les milieux protestants. Pourquoi est-il resté méconnu toute sa vie? Sans doute pour plusieurs raisons, mais d'abord une raison qui vient d'être évoquée, c'était son attachement à la province. Il aurait pu monter à Paris, comme on dit, et il a préféré rester à Bordeaux. Il est né à Bordeaux, il est mort à Bordeaux. On va voir qu'il a quand même un petit peu voyagé, mais pas beaucoup. Il était donc un provincial, et on sait bien aujourd'hui, on sait bien qu'en France, si on n'est pas à Paris, on est loin des réseaux médiatiques, des réseaux éditoriaux. Et donc, on reste quelque peu méconnu, quelque peu dans l'ombre quand on est un intellectuel, même quand on a des idées et que ces idées mériteraient d'être connues. Et puis, il y a quand même une autre raison, peut-être plus fondamentale, pour laquelle Jacques Ellul est resté méconnu toute sa vie, c'est qu'il s'est toujours situé à contre-courant des modes intellectuels et culturels. Je vous donnerai quelques exemples. À partir déjà des années 40, à la fin des années 40, il a écrit un livre sur la technique. En 49, il a écrit un livre sur la technique. Il a mis 5 ans à trouver un éditeur parce qu'à l'époque, avoir un regard critique sur la société technicienne, au début des Trente Glorieuses, à l'époque, on ne parlait pas vraiment d'écologie, hein, c'était vraiment très précurseur. Il a vu les choses avec une lucidité certainement trop tôt, et donc il a un peu prêché dans le désert. Deuxième exemple, son rapport à Karl Marx. Il a lu tout Marx, il était un spécialiste de Marx, il a enseigné la pensée de Marx à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, mais il n'était pas marxiste. Il disait lui-même qu'il était marxologue, c'est-à-dire spécialiste de Marx sans être marxiste. Et à une époque où, les années 50, 60, où la pensée de Marx était, pour reprendre une expression de Marx, mais en la retournant contre lui, était la pensée dominante de l'époque, dans les universités, eh bien, ne pas être marxiste, c'était se condamner à ne pas être entendu, à ne pas être apprécié, reconnu. Et puis, alors, troisième exemple de cette posture à contre-courant, son rapport aux politiques, on va en parler tout à l'heure, il était très critique à l'égard de la politique, mais aussi du politique, et on va voir pourquoi tout à l'heure, alors que c'était une époque aussi, les années 50, 60, encore 70, où on disait tout est politique. Et si on est critique vis-à-vis de l'engagement politique en tant que tel, eh bien, soit on est ringard, soit on est réactionnaire, soit on n'a rien compris. Enfin, quatrième exemple et pas le moindre, il était chrétien et il le confessait. Et à une époque, là aussi, c'est une époque où on disait la religion, c'est fini, c'est la fin de la religion, c'est la sécularisation, la religion, c'est du passé. Lorsqu'on confesse sa foi chrétienne, on n'était pas forcément entendu. Les choses ont bien changé, sans doute, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on redécouvre Jacques Ellul, et il commence vraiment, depuis quelques années, à être redécouvert ou découvert. Ces livres qui datent de 30-40 ans sont réédités, et un éditeur ne prendrait pas le risque de rééditer des livres de 40 ans s'il n'avait pas la certitude de les vendre, de les écouler. Il y a vraiment un phénomène intéressant qui se passe, et c'est souvent le cas des prophètes qui ne sont pas entendus dans leur propre patrie et qui sont parfois entendus après leur mort. Alors, je vous propose, dans les trois quarts d'heure de mon exposé, d'aborder trois parties. Une première partie biographique, je vais raconter rapidement la vie de Jacques Ellul. Une deuxième partie sur sa critique de la société technicienne. Et une troisième partie sur son éthique chrétienne. Et c'est les deux parties critique de la société technicienne et éthique chrétienne sont étroitement liées l'une à l'autre, comme je vais le montrer. Donc tout d'abord, quelques éléments sur sa vie. Il est donc né en 1912 dans une famille qui n'était pas spécialement croyante. Son père était d'origine serbe orthodoxe, mais libre penseur. Ça existe, des orthodoxes libre penseurs. Et sa mère était d'origine portugaise, mais protestante, ça existe aussi, et portugais protestant, mais elle était croyante, mais non pratiquante, par respect pour son mari. Elle avait fait le choix de ne jamais aller à l'église. Et Jacques Ellul était fils unique, il a donc grandi avec aucun climat chrétien, aucun climat de foi ni de pratique à la maison. Il y a eu deux grands événements dans sa vie, dit-il, deux grands événements dans sa vie personnelle, la rencontre de sa femme, mais là-dessus il reste toujours très pudique, il n'en dit pas plus, ça a été le grand événement, et puis sa conversion. Sa conversion à l'âge de 17 ans, et une conversion brutale, une conversion foudroyante. Et alors là aussi, il est resté très pudique pendant très longtemps. Puis à la fin de sa vie, on l'a titillé un petit peu, les journalistes l'ont titillé. Donc il a un peu raconté sa conversion, comment ça s'est passé. Et il disait qu'il a été saisi, à l'âge de 17 ans, saisi par la présence de Dieu qui était une évidence, la présence de Dieu à ses côtés. Et ça lui a fait très peur. Ça lui a fait très peur parce que Jacques Ellul était très attaché à une valeur suprême pour lui, c'est la liberté. Et il avait peur de perdre sa liberté en devenant chrétien. Et donc, et ça vous donne déjà une image, une idée du personnage, du caractère de Jacques Ellul, Il a eu peur et il a donc essayé de se plonger dans une littérature antichrétienne. Il a lu tout Marx, il a lu tous les anticléricaux et les antichrétiens, toutes les critiques du christianisme, pour voir si cette évidence de la présence de Dieu allait tenir. Hein. Il a éprouvé en quelque sorte cette conversion malgré lui. Et il lui a fallu un certain temps, plusieurs mois, pour se rendre compte, pour prendre conscience du fait qu'en acceptant la conversion qui lui était proposée, eh bien, il n'allait rien perdre du tout de sa liberté et qu'au contraire, il allait accéder à une véritable liberté et que la liberté, les libertés auxquelles il tenait étaient tout à fait factices. Et donc, il a accepté de se convertir et c'est pourquoi il dira par la suite... il a une formule assez saisissante, comme il a plusieurs formules comme ça qui font mouche. Il dira « On n'a pas la foi, mais c'est la foi qui nous a ». Et ça exprime bien l'expérience qu'il a faite de recevoir la foi sans du tout l'avoir cherchée et sans du tout avoir préparé cela. Encore que rien n'était préparé, comme je vous le disais, il n'était pas dans un climat chrétien, mais quand il est allé voir sa mère en lui disant « Voilà, je me convertis », il s'attendait à ce que sa mère soit très surprise et sa mère lui a dit mais pas du tout, je prie pour cela depuis ta naissance. Voilà. Donc il y avait quand même quelque chose qui se passait dans la famille mais qu'il n'avait absolument pas perçu lui-même. Et donc c'est à la même période, donc 29-30, les années 1929-1930, qu'il se convertit et qu'en même temps il découvre Marx, je viens de l'expliquer pourquoi. Et quand il découvre Marx, l'œuvre de Marx, qu'il va lire intégralement, y compris Le Capital, eh bien, il est aussi saisi par, il est aussi séduit, parce que c'est la crise de 29, et la découverte de Marx lui permet de comprendre ce qui se passe. Il dit, son père est au chômage, la misère gagne sa famille et son entourage. Et Marx lui a permis de comprendre la crise du capitalisme qu'il traversait à ce moment-là. Mais il sera lui-même critique à l'égard de Marx, on y reviendra tout à l'heure. Il ne sera donc jamais marxiste, mais toujours en dialogue, mais en dialogue exigeant avec Marx et avec les marxistes. En revanche, il va rencontrer dans les années 30 le mouvement du personnalisme d'Emmanuel Mounier, il va être un compagnon de route, on peut dire, hein, de Mounier, puis il rompra avec lui, pour une raison toujours la même pour Ellul, c'est qu'il considérait que donc, l'équipe autour d'Emmanuel Mounier et de la revue Esprit était trop autoritaire, donc qui portait atteinte à sa liberté en tant que groupe d'amis et d'esprit à Bordeaux, et puis surtout très parisienne et très centralisatrice. Alors, il a rompu avec ce mouvement-là. Quelle est sa trajectoire professionnelle? À la fin des années 30, c'est un étudiant précoce et brillant, surdoué, bachelier à 16 ans, docteur en droit à 24 ans, il faut le faire, chargé de cours en droit, donc, professeur de droit, enfin, chargé de cours en droit, à la faculté de Montpellier, alors en 1937, il commence à quitter Bordeaux pour la première fois, en 37, et à Strasbourg en 38. Chargé de cours en droit, et puis, comme vous le savez peut-être, enfin, j'ai l'habitude de m'adresser à des Alsaciens, peut-être que vous ne le savez pas, mais comme vous le savez peut-être, l'université de Strasbourg, en 1939, au moment de la drôle de guerre, c'est-à-dire de la déclaration de guerre, mais une guerre de position, où on reste sur la ligne Maginot, l'université de Strasbourg va être transférée à Clermont-Ferrand. Et donc, il se trouve à Clermont-Ferrand. Et à ce moment-là, au moment de l'armistice de 40, il rassemble ses étudiants alsaciens et mosellans et il leur dit « Attention, faites attention au maréchal Pétain, ne lui faites pas confiance, parce qu'il va tout faire pour vous faire retourner en Alsace et en Moselle, et si vous le faites, et il va même utiliser vos parents pour vous supplier de le faire, si vous le faites, eh bien, vous serez enrôlé de force dans la Wehrmacht. » Il avait déjà vu ça, déjà 2 ans avant. Or, un de ses étudiants va le dénoncer. Il faut toujours se méfier de ses étudiants. Un de ses étudiants le dénonce et il va être révoqué de l'université en 40. Il a déjà une femme et un premier enfant. Il se trouve à la rue, au chômage. Et donc, il va rentrer dans la résistance à ce moment-là, en 1940. Il va s'installer dans un petit village tout près de la ligne de démarcation, mais en zone sud, près de Bordeaux. Vous savez que Bordeaux était dans la zone occupée, mais donc dans le village de Martres. Et il va cultiver son jardin. Il avait jamais utilisé ses mains. Hein. C'était un intellectuel. Il va aller voir les fermiers, les agriculteurs, et il va apprendre à faire son champ de pommes de terre et avoir des lapins et des poules. Et pendant tout le temps de la guerre, il va subsister ainsi. Et étant tout près de la ligne de démarcation, il va faire de la résistance au sens où il va, non pas de la résistance armée, mais il va faire passer des juifs dans un sens, des résistants dans l'autre, il va faire des faux papiers, etc. Et il va donc faire partie du Conseil national de la résistance. À la libération, il va avoir une petite expérience politique. Parce qu'au moment de la libération, en libération de Bordeaux en 1944, avant d'organiser des élections pour élire la nouvelle municipalité, eh bien, la municipalité provisoire va être l'émanation du Conseil national de la résistance. Et donc on lui propose d'être adjoint au maire de Bordeaux, ce qu'il accepte. Et ça sera pour lui la seule expérience politique, mais une expérience cuisante, parce que c'est là qu'il va comprendre à quel point la politique est pipée, hein, et la politique est un spectacle, dira-t-il, un spectacle entièrement truqué. Pourquoi ? Je vous donne juste une anecdote qui lui fait prendre conscience à quel point ensuite, quand on lui proposera de se présenter aux élections de 45 pour la municipalité sur la liste du maire, pour la municipalité de Bordeaux, il refusera parce qu'il dit ben, je suis adjoint au maire d'une grande ville française. J'ai 30 dossiers par jour que je dois examiner et je dois donner un avis sur 30 dossiers. Si je suis honnête, je peux éventuellement en examiner 2 ou 3. Et le reste, je fais confiance aux experts, je fais confiance à mon cabinet, je fais confiance aux techniciens. Un ministre de la République, il a 300 dossiers par jour. Donc, ce n'est pas lui qui décide. Ce sont les techniciens, ce sont les experts dans les cabinets. Et donc, en plus, même, là c'est dans le cas où je serais honnête, mais la plupart des hommes politiques, en réalité, ils passent leur temps en représentation. Ce ne sont pas eux qui écrivent leurs discours, ce ne sont pas eux du tout qui analysent ces dossiers. Et donc, il va renoncer à la politique définitivement. Et il va, comme on le verra tout à l'heure, analyser ce que c'est que la politique, ce qu'est vraiment la politique. Il retourne donc à l'université de Bordeaux et jusqu'à sa retraite en 80, il va enseigner à l'université de droit de Bordeaux et à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. En dehors de cet enseignement, il s'intéresse à beaucoup de domaines. On va voir qu'il a écrit sur pratiquement tous les domaines de la vie moderne. Et il a un certain nombre d'engagements. Un engagement d'abord dans l'Église réformée. Alors, je ne vous ai pas dit que quand il s'est converti, il a choisi d'être réformé. Ça, il aurait pu choisir autre chose, mais il a fait ce choix-là. Je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer pourquoi. Il s'engage comme laïc, puisqu'il n'a jamais été pasteur. Il s'engage comme laïc dans l'Église réformée de France, qui laisse une grande part aux laïcs, aussi dans les instances de décision. Et il sera membre du conseil régional, pardon, du synode régional, et du synode national, et du conseil national. C'est-à-dire qu'il sera un des membres de la direction, le conseil national de l'Église réformée de France, c'est l'exécutif, et le synode national, c'est le législatif. Pendant 20 ans, il sera l'un des membres laïcs très importants de cette Église, avec toujours des idées à contre-courant par rapport à la marche de l'Église. Je ne l'ai pas connu, mais ceux qui l'ont connu me disent toujours que lorsqu'il allait prendre la parole au cours d'un synode, tout le monde se disait « aïe, 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 qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous casser la baraque. » Il va toujours être à l'encontre de la majorité. Hein, il était, le protestantisme étant minoritaire, mais il était le minoritaire dans la minorité. Indépendamment de ces engagements dans l'Église, engagements critiques donc, je citerai deux autres engagements. Un engagement social, puisque dans les années 50, il va créer le premier club de prévention de la délinquance, à l'époque où on parlait des blousons noirs, et il va être à côté de Bordeaux le président de ce premier club pendant très longtemps, jusqu'à dans les années 70, et manifestement, il n'a pas été un président dans son cabinet, dans son bureau. Il allait dans la rue, il allait rencontrer les jeunes, il allait parler avec eux, il avait une très forte autorité, une très forte ascendant sur eux, il savait être entendu, être écouté, et il faisait en sorte que ces jeunes, au lieu de casser, au lieu de... Ils allaient jeter des mobilettes d'en haut d'une falaise, au lieu de faire ça, il leur proposait d'aller faire de la plongée sous-marine ou d'escalader le Mont Blanc, de manière à construire quelque chose, de faire quelque chose de leur énergie. Et enfin, et pas le moindre, un engagement qu'on appellerait aujourd'hui écologiste, un engagement pour la sauvegarde de l'environnement et de la planète, qui s'est fait non pas, vous l'avez compris, non pas en se présentant à des élections, il ne croyait pas à l'écologie électorale, mais, et non plus en essayant donc de conquérir le pouvoir, mais par une résistance locale. Il croyait aux résistances locales. Étant à Bordeaux, eh bien, il a engagé avec ses amis tout un mouvement de résistance contre le projet que lui appelle le projet de bétonnage de la côte aquitaine. On voulait faire de la côte aquitaine dans les années 70 une deuxième côte d'Azur, et il s'y est opposé à sa manière, c'est-à-dire qu'il allait avec ses amis de village en village, provoquait des réunions publiques en disant voilà aux habitants, voilà ce qu'on vous prépare dans les ministères, on ne vous dira pas ce qu'on vous prépare, on vous dira autre chose. Mais voilà ce qui, si vous acceptez, voilà ce qui va se passer, si vous résistez avec nous, voilà ce qu'on pourra sauvegarder. Donc si vous acceptez, ben, ça sera une deuxième côte d'Azur, ça sera un tourisme de luxe, ça sera du béton partout. Si vous résistez avec nous, on pourra sauvegarder l'artisanat local, le tourisme à échelle humaine et la pêche, etc. Et là aussi, il semble, je n'ai pas fait une enquête précise, mais il semble bien que là où il a été entendu, tout cela a pu être sauvegardé. Là où il n'a pas été entendu, ça a été catastrophique. Voilà pour, rapidement, hein, quelques éléments de sa vie. Il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais j'en viens à sa pensée, à son œuvre. Une œuvre considérable. Il a écrit donc 58 livres. Il y en a encore un qui est inachevé, qu'on va essayer d'éditer, un petit livre de 1200 pages. Et puis, les 58 livres, il y en a de toute taille, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont assez épais. Un millier d'articles, plus d'un millier d'articles. Donc, à peu près plus de 13 000 pages de textes publiés. Voilà, donc, une œuvre considérable. On peut diviser son œuvre écrite en deux volets, à peu près équivalents en taille. Un volet sociologique, c'est la critique de la société technicienne, critique de la société moderne avec ses différents aspects. Donc il y a un livre, par exemple, un livre sur la politique, bien sûr, un livre sur l'art dans la société moderne, un livre sur la violence dans la société moderne, un livre sur l'exclusion, la marginalisation des jeunes, des livres sur la technique, etc., etc. Donc, un livre sur les médias, donc des livres sur différents aspects de la société moderne. Et puis, deuxième versant, un versant, je dirais, d'éthique chrétienne, biblique et théologique. Dans ce deuxième versant, il y a un certain nombre de commentaires bibliques. Donc il a fait un commentaire sur Jonas, deux commentaires sur l'Apocalypse, un commentaire sur la Genèse, un commentaire sur Coëlette, l'Ecclésiaste, un commentaire sur le deuxième livre des Rois, un commentaire sur les tentations et les souffrances de Jésus, etc., etc. J'en oublie. Un commentaire sur Romains 9 à 11, donc le statut du peuple juif dans l'épître de Paul aux Romains. etc., etc. Donc, des commentaires bibliques et puis des ouvrages donc, d'éthique chrétienne qui répondent en quelque sorte aux ouvrages sociologiques. Les ouvrages sociologiques ne parlent pas de Dieu, ils peuvent être lus par tout un chacun, hein, et on peut très bien y adhérer ou discuter. Tandis que les ouvrages du deuxième versant s'adressent plutôt aux chrétiens, mais sont en contrepoint du premier. Donc il y a un livre sur la violence pour les chrétiens, qu'est-ce que ça signifie ? Un livre sur la politique pour les chrétiens, qu'est-ce que ça signifie ? Etc. Et donc vous voyez un mouvement de balancier entre ces deux versants, et il est tout à fait dommageable de ne lire qu'un versant. Il le disait lui-même, si vous ne lisez que la partie sociologique, eh bien il vous manque l'autre, et réciproquement. Parce qu'il y a une dialectique entre les deux versants de mon œuvre, disait-il. Et il expliquait ainsi cette dialectique. Il disait, je suis un homme entier, hein, même s'il y a ces deux versants, je suis un homme entier, mais c'est, d'une part, c'est parce que je suis sociologue, parce que j'examine les faits concrets, que ma théologie n'est pas une théologie qui décolle du ciel, hein, c'est une théologie bien incarnée, c'est une théologie, c'est une éthique qui est ancrée dans la vie du travail, dans la vie concrète des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dans le travail, dans le rapport à l'argent, dans la sexualité, dans la politique, donc tout ce qui fait la vie quotidienne des gens aujourd'hui. Et inversement, je n'ai pu, disait-il, observer la société telle qu'elle est, dans toute son horreur, telle qu'elle est, et l'abîme vers lequel nous nous précipitons allègrement, je n'ai pu le voir avec lucidité que parce que j'étais chrétien, parce que j'ai une espérance qui va au-delà de ce monde. Et il disait, si je n'avais pas eu cette espérance, ben soit j'aurais arrêté mon enquête, mes analyses, soit je me serais suicidé. Parce que ce que j'ai vu est tellement dramatique, est tellement abominable, ce qu'on est en train de préparer pour nos enfants et nos petits-enfants, que si on n'est pas chrétien, il y a de quoi peut-être désespérer, en tout cas. Un dernier point encore avant d'entrer dans ces deux versants de son œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure que Jacques Ellul était un surdoué, un homme d'une grande intelligence, et il expliquait ainsi comment il recevait le deuxième commandement que cite Jésus dans les évangiles, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et lui recevait le quatrième élément, de toute ta pensée, pour lui-même. C'est-à-dire, il disait, Dieu m'a donné des capacités intellectuelles, et eh bien je vais les mettre à son service, de toute ta pensée. Eh bien, je vais faire en sorte que ma vie ait un sens avec les dons que j'ai reçus. Alors, venons-en à... entrons dans son œuvre, dans le versant, premier versant, le versant sociologique, la critique de la société technicienne dans son œuvre. Jacques Ellul analyse le phénomène technicien, le phénomène de la technique. Qu'est-ce que la technique ? La technique, pour Jacques Ellul, ce qu'il appelle la technique, c'est la recherche des moyens toujours plus efficaces. C'est cela qu'il appelle la technique, toujours chercher le plus efficace. Et quand on a trouvé encore plus efficace, on abandonne ce qu'on avait jusqu'ici. Donc, c'est ça qu'il appelle technique, hein, on peut le définir autrement, mais c'est ça qu'il entend par technique. La recherche toujours du plus efficace, la suprématie de la valeur d'efficacité sur toute autre valeur. Alors, l'homme a toujours eu des techniques, l'homme a toujours utilisé des outils pour être efficace. Mais, disait-il, il y a eu le franchissement d'un seuil qu'il situe à peu près au milieu du XXe siècle. On peut discuter, mais il y a eu le franchissement d'un seuil. À un moment donné, la technique a changé de nature. La technique n'est plus seulement un outil entre les mains de l'homme. La technique est devenue, vous allez voir, ça c'est évidemment une thèse qui a fait hurler beaucoup de gens. Hein. Aujourd'hui, on est un peu plus attentif à ça, mais dans les années 40, il ne pouvait pas se faire publier en 49, ce n'était pas possible. Et la technique est devenu autonome. Autonome, ça veut dire que, à un moment donné, le progrès technique a échappé à la maîtrise de l'homme. La technique s'auto-engendre. La technique se nourrit elle-même et l'homme court après. C'est un peu l'apprenti sorcier. Inaudible dans les années 40. En effet, aujourd'hui, l'homme n'est plus en état de dire, voilà, il y a un progrès technique, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas ? L'homme fait tout ce qu'il peut faire parce qu'il peut le faire. Le progrès avance de lui-même, la technique avance toute seule, et l'homme court derrière, c'est-à-dire que dès qu'il y a une innovation technique, eh bien, il ne se pose plus la question de savoir est-ce que c'est bon sur d'autres plans, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Il le fait parce qu'il peut le faire. Il donne l'exemple de la conquête spatiale. Conquête spatiale, c'est l'exemple par excellence de cette technique qui échappe à l'homme, c'est-à-dire, bien sûr, ce sont des hommes qui partent dans l'espace. Mais la conquête spatiale n'a aucune retombée, en tout cas immédiate, ni en termes sociaux, ni en termes économiques, peut-être en termes militaires, mais en tout cas, c'est un gouffre financier, et on le fait quand même. À l'époque, c'était la course, c'était la concurrence entre les États-Unis et l'URSS, on le faisait alors que ça coûtait très cher, ce qui montre bien que ce n'est pas l'argent qui compte, c'est la technique. C'est-à-dire que, c'est ça sa thèse, la technique, c'est le facteur décisif de notre société moderne. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la finance, contrairement à ce que pensait Marx. Mais Marx, disait-il, avait raison pour son époque. Il disait que, milieu du 19e siècle, Marx avait raison. Par contre, les marxistes qui répètent Marx comme un perroquet au 20e siècle, ils répètent dogmatiquement une vérité qui était vraie pour l'époque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'économie, ce n'est plus la finance, c'est la technique qui a échappé à la direction de l'homme et qui modèle toute notre vie. Il disait aussi que la technique est devenue notre milieu aujourd'hui. Pendant très longtemps, les hommes ont vécu dans le milieu naturel, avec quelques petites techniques, quelques outils. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu technique. Nous avons quitté le milieu naturel et la technique est devenue notre milieu. Un milieu qui n'est pas fait pour nous, mais dans lequel nous nous adaptons, vaille que vaille. Donc la technique est le facteur déterminant qui nous conditionne. Ce n'est pas la politique. On croyait à cette époque qu'avec la politique, on allait changer le monde, changer la vie, orienter notre vie vers un monde meilleur. En réalité, la politique suit la technique. Il suffit de voir à cette époque que l'URSS et les États-Unis sont tous les deux embarqués, alors que ce sont deux systèmes politiques très différents, deux systèmes économiques très différents, mais ils sont embarqués tous les deux dans la même course à la croissance technicienne, au progrès technique et à la conquête spatiale. Donc ce n'est pas la politique qui oriente le monde, ce n'est pas l'économie, comme je l'ai dit, ce n'est pas la morale. Il disait, par exemple, des comités d'éthique. Les comités d'éthique, il n'y croyait pas du tout, parce que si on a une innovation technique, par exemple le clonage, on commençait déjà à parler du clonage à la fin de la vie des lunes, eh bien, le clonage, le comité d'éthique, il va dire non, mais même s'il dit non en France, il dit ça se fera ailleurs, donc ça se fera ensuite en France. Donc le comité d'éthique, c'est un feu de paille. Les valeurs morales ne résisteront pas à ce rouleau compresseur de la technique. La société technicienne, c'est une société dans laquelle tout est devenu moyen. Il n'y a plus de fin, il n'y a plus de finalité. Vous pouvez avoir des finalités politiques, des finalités spirituelles, des finalités morales. Non, tout est devenu moyen. Les moyens ont pris la place des fins. Et donc, on fait tout ce qu'on peut faire, parce qu'on peut le faire, sans se poser d'autres questions. Et puis alors, il a eu le temps d'analyser la révolution informatique. Il a écrit un livre en 77. Qui s'appelle le premier livre sur la technique, c'est La technique ou l'enjeu du siècle, qui est paru en 54, mais qui a été écrit en 49. Et puis le deuxième livre sur la technique, c'est Le système technicien, qui date de 77. Et donc il analyse tout ce qui s'est passé entre-temps sur le plan de la technique. C'est quelqu'un qui lisait énormément tout ce qui sortait dans les revues scientifiques et il en rend compte. Et ce qui se passe donc dans les années 70, c'est la révolution informatique. Qu'est-ce que la révolution informatique ? Par rapport à la technique, c'est une mise en réseau de toutes les techniques, une mise en réseau de tous les progrès techniques. Et donc, cette mise en réseau, cette mise en système, provoque une accélération. Hein, quand il y a une innovation technique ici et que tout est mis en réseau, ça accélère le progrès technique sur l'ensemble de la société. Mais c'est aussi une grande fragilisation de la société. Tout est mis en réseau, donc tout avance de plus en plus vite et tout en même temps. Mais en même temps, s'il y a un progrès technique d'un côté, on peut en bénéficier ailleurs. Mais si c'est une catastrophe d'un côté, on en pâtit partout. Hein. On est devenu une société extrêmement fragile avec un talon d'Achille qui est l'énergie nucléaire parce que, disait-il, eh bien, on prête, il disait ça déjà avant, bien avant 2001, puisqu'en 2001, il était déjà décédé, il disait, au XXIe siècle, il y aura peut-être des guerres terroristes et on se jettera sur les centrales nucléaires. C'est notre talon d'Achille à nous, l'Occident. Je vous rappelle que le 11 septembre 2001, le quatrième avion devait se jeter, d'après certaines enquêtes, devait se jeter sur une centrale nucléaire et que c'est grâce au courage de quelques passagers qui s'est écrasé en rase campagne. Donc voilà, il avait prévu, hein, il avait prévu cela. Il disait même, vous allez voir encore une formule qui fait mouche, il disait, Malraux disait que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Eh bien moi je vous dis, le 21e siècle sera religieux, donc il ne sera pas. Sera religieux parce que, précisément, le 21e siècle sera un monde, sera un siècle de conflits religieux, de conflits religieux avec des moyens techniques démesurés qui mettront en péril notre avenir. Gageons qu'au moins là-dessus, il se soit trompé. On est arrivé déjà en 2010, espérons qu'il se soit trompé. Il s'est parfois trompé dans ses prévisions, mais généralement, il ne s'est pas trompé, hélas. Il aurait aimé se tromper. Un dernier point, alors pour la question de la politique, je vous l'ai déjà dit, hein, la politique n'a aucun impact sur l'évolution de nos sociétés. Nous sommes partis dans une course à la croissance démesurée. Jacques Ellul et son ami Bernard Charbonneau qui ont eu cette formule qui a ensuite été reprise, souvent sans savoir quelle était la source. On ne peut pas avoir un développement infini dans un monde fini. On ne peut pas avoir un développement infini dans un monde fini. Or, c'est ce que nous préparons, un développement infini. Nous croyons que nous allons avoir de plus en plus de croissance. Et la politique ne peut absolument rien contre... Enfin, ne peut pas orienter cette course à l'abîme. Pour lui, c'est une course à l'abîme. Et nous nous y précipitons avec toute notre énergie, toutes nos finances, toute notre intelligence et même avec enthousiasme. Donc, il ne croyait pas à la politique. Il disait, même si on élisait, par exemple, un gouvernement entièrement écologiste, un gouvernement totalement écologiste, ça n'aurait aucun impact parce qu'on est dans un système mondial, et que ce n'est pas là que se prennent les décisions, ce n'est pas au gouvernement, c'est en amont du politique, c'est-à-dire dans les cabinets, chez les experts, les techniciens, et puis en aval, parce que même un ministre qui prendrait une décision contraire à cette marche à l'abîme, eh bien, sa décision ne serait pas appliquée parce qu'il y a tout le poids de l'administration en aval. Je crois qu'on a eu des exemples qui ont confirmé cela, hélas, par la suite. Donc, voilà, l'homme politique, c'est un pantin, hein, c'est une marionnette. Hein, il est en représentation, il inaugure des monuments, mais il ne fait que ça. Il fait des discours, enfin, il prononce des discours que d'autres ont écrits, mais en réalité, le pouvoir est ailleurs. Hein, le pouvoir, il est chez les techniciens. Dernier point sur la société technicienne, et puis je passerai à l'éthique chrétienne, la question de la propagande. Jacques Ellul a donné un cours longtemps, pendant 20 ans, je crois, sur la propagande. Il est un des grands spécialistes de la propagande. Il a écrit deux livres, un gros livre qui s'appelle « Propagande au pluriel » et un petit livre, « Un que sais-je » sur l'histoire de la propagande. Et donc, il analyse comment fonctionne la propagande. Alors, il commence par la propagande stalinienne, il montre comment ça a marché, la propagande nazie, propagande maoïste, avec, là, je n'ai pas le temps de montrer, mais c'est des analyses très fines, hein, il montre comment ça marche. Il montre à quel point nous sommes malléables, l'homme est malléable. Il donne, par exemple, un exemple, pendant la guerre du Vietnam, des aviateurs américains qui étaient... dont l'avion avait été touché au-dessus du Vietnam et ils avaient été obligés de sauter en parachute. Ils avaient été pris par le Viet Cong, des faits prisonniers, et le Viet Cong leur avait infligé un lavage de cerveau, donc une propagande à haute dose. Pendant 6 mois, ils étaient enfermés. Pendant 6 mois, ils entendaient le même message toutes les 3 minutes, pendant 6 mois, à la gloire du communisme. Ensuite, le Viet Cong ne les gardait pas, il les relâchait pour contaminer l'armée américaine. Et donc, ils étaient récupérés par les Américains, qui faisaient la même chose. Ils les récupéraient, ils leur refaisaient un lavage de cerveau dans l'autre sens. C'est-à-dire que le même homme a été anticommuniste, puis communiste, puis anticommuniste. Nous sommes, hélas, peu de choses face à ces techniques de propagande. Alors là, c'est une propagande extrême, hein, c'est un cas extrême, parce que c'est dans un cadre d'incarcération, d'otage, de prisonniers. Mais nous sommes fort peu de choses par rapport à la propagande dans des régimes dictatoriaux. Et puis alors, dans son livre, subrepticement, il passe au régime démocratique. Et il montre que ça fonctionne pareil, avec la publicité, avec le système des médias. Il montre que nous sommes manipulés comme ces aviateurs américains. On peut nous faire faire n'importe quoi, nous faire penser n'importe quoi, nous faire changer d'avis, nous faire rechanger d'avis. J'ai pas le temps de montrer à quel point, comment ça marche, mais je vous invite à lire ce livre. C'est assez hallucinant à quel point nous sommes très peu de choses face à la propagande. Ce qu'il appelle notamment la propagande horizontale, c'est-à-dire une propagande non pas politique à proprement parler, mais une propagande qui modèle notre mode de vie, qui nous incite à consommer d'une certaine façon, à avoir des activités culturelles d'un certain type, etc., etc. Alors, il reste peu de temps, donc j'en viens au deuxième versant de son œuvre, l'éthique de la liberté. Jusqu'ici, c'est assez désespérant. Hein. Mieux pas lire les livres du premier versant si vous êtes dépressif ou avant de vous coucher le soir. Le deuxième versant est un peu plus édifiant, un peu plus réjouissant, mais pas toujours, parce qu'il est aussi très critique vis-à-vis de ce que les chrétiens ont fait depuis 2000 ans. Et ce sont les chrétiens, dit-il, qui sont les plus conformistes des hommes dans la société technicienne. Ce sont eux qui sont certainement responsables de beaucoup de choses. Alors, pourquoi l'éthique de la liberté? Pourquoi il intitule donc l'un de ses ouvrages « Éthique de la liberté » Vous avez compris que pour lui, c'était la valeur suprême, c'est la liberté. Et c'est précisément ce qui définit la condition du chrétien, c'est la liberté. D'abord parce que face à ce système clos, ce système technicien, cette société sans avenir, cette société de l'abîme qui nous conduit vers l'abîme, cette marche vers la catastrophe, le cataclysme final que l'on prépare, lui pense qu'il n'y a qu'une seule façon de résister, de ne pas être entraîné par cette grosse machine, c'est de s'appuyer sur celui qui est en dehors du système, c'est-à-dire sur Dieu. Il n'y a que Dieu. Nous, on est dans le système. On est pris dans la machine. Et donc, c'est en s'appuyant sur un Dieu transcendant, sur celui qui est hors du système, qu'on va pouvoir au moins prendre un peu de recul par rapport à soi-même. Et donc, faire en sorte que ce Dieu chrétien, ce Dieu de Jésus-Christ, fasse brèche dans le système. Ça, c'est son point de départ. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans sa conversion, il a découvert que la liberté chrétienne était la seule véritable liberté. Toutes les libertés auxquelles il tenait jusqu'ici étaient factices, liberté politique, liberté sociale, liberté morale. Tout ça était factice. Pourquoi ? Parce que la liberté chrétienne, la liberté en Christ, hein, la liberté en Jésus-Christ, a ceci de particulier. D'abord, ce n'est pas une liberté, c'est une libération, c'est un processus. Hein, le premier état, c'est un état d'aliénation dont nous pouvons sortir en nous laissant libérer. Donc c'est un processus qui n'est jamais acquis, il y a toujours à reprendre, mais c'est un mouvement permanent au cours de sa vie. Et puis, le deuxième élément qui fait que la liberté en Christ est bien différente des autres et pour lui bien supérieure aux autres, c'est que c'est la seule liberté qui ne soit pas une liberté à l'égard d'un objet extérieur, mais qui soit d'abord et avant tout un processus de libération à l'égard de soi-même. À l'égard de soi, la liberté en Christ nous permet de nous dégager de tout ce qui, en nous-mêmes, nous fait suivre le mouvement, de tout ce qui en nous-mêmes nous rend conformistes. Je précise, petite parenthèse, pour vous montrer aussi toujours l'esprit dialectique de Jacques Ellul, quand il parle de conformisme, hein, il dit « nous sommes très conformistes dans la société technicienne, nous faisons comme tout le monde ». Mais dans les années 70, vous vous en souvenez, je pense que la plupart d'entre nous étions sur Terre, étions sur ce monde. Dans les années 70, il y avait tout un mouvement de contestation. Jacques Ellul était très critique vis-à-vis de ce mouvement de contestation parce qu'il disait que c'était un conformisme de l'anticonformisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde portait les cheveux longs, tous les jeunes portaient les cheveux longs, avaient les mêmes jeans, écoutaient la même musique, faisaient exactement la même chose. Ils étaient contre, mais ils étaient conformistes dans leur attitude de contre. Voilà. Donc, la liberté en Christ, c'est une liberté qui nous permet d'être libre à l'égard du mouvement conformiste et aussi des conformismes de l'anticonformisme ou des modes de l'antimode. C'est une liberté qui nous permet d'être vraiment dégagé à l'égard de soi, du mouvement sociologique, mais aussi des pulsions, de tout ce qui est pulsionnel chez nous et ce que visent les médias, c'est tout essayer d'atteindre la partie pulsionnelle en nous. Eh bien, la liberté en Christ nous permet au moins de prendre un recul, au moins de nous dégager de cette emprise que la propagande, que les médias, que la société telle qu'elle va a sur nous. Alors, il n'était pas hostile à un engagement, par exemple un engagement politique, mais il disait, d'accord, engagement politique, à condition d'être dégagé avant de s'engager. Parce que si on s'engage simplement pour suivre le mouvement, hein, je suis communiste parce que mes parents étaient communistes, je suis anticommuniste parce que mes parents étaient anticommunistes, etc., je suis le mouvement de mon milieu social. Je ne suis pas libre, je fais exactement ce que mon milieu m'incite à faire. Donc, cherchons d'abord à être dégagés, et ensuite, alors, on peut s'engager, mais on peut s'engager librement. Il donnait un exemple, parce que c'était l'époque des révolutions, des mouvements révolutionnaires dans le tiers-monde, et il y avait des chrétiens qui soutenaient ces mouvements de guérilla. Et il disait, bon, pourquoi pas, allez-y, soutenez ces mouvements de guérilla. Il parlait souvent aux jeunes, hein, ces étudiants, il disait, pourquoi pas. Mais si vous voulez vraiment être libre, là, vous allez lutter pour une liberté humaine, une liberté politique pour ces peuples qui sont opprimés. Si vous voulez vraiment faire témoigner de la liberté en Christ, eh bien, soutenez les opprimés, et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, soutenez les nouveaux opprimés, c'est-à-dire ceux qui sont opprimés par ceux que vous souteniez avant. Hein. Donc, changez de camp. Voilà, changez de camp. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Hein. Changez de camp une fois que les pauvres sont arrivés au pouvoir. Voilà, ça vous donne un peu l'image. Hein. Il faudrait multiplier les formules comme celle-là. Jacques Ellul ne demandait pas à ses lecteurs ou à ceux qui l'écoutaient de quitter ce monde, hein, de sortir du monde. Il ne s'agissait pas, même si le monde était désespérant, de le quitter. Mais il disait, par la libération en Christ, on peut vivre dans le monde tout en étant libre, c'est-à-dire tout en cessant d'idolâtrer ce monde. Nous idolâtrons ce monde. Nous idolâtrons notamment la technique. Il suffit de regarder le journal télévisé tous les soirs. Pratiquement chaque soir, il y a des louanges à la dernière innovation technique, le dernier avion, le dernier gadget. Eh bien, il ne disait pas de rejeter la technique. Bien sûr, les derniers gadgets à la mode, les derniers cris, ce n'est peut-être pas la peine. Mais on utilise quand même la technique de manière sage, avec discernement, mais sans l'idolâtrer. C'est-à-dire utiliser nos œuvres, hein, en langage chrétien, on dirait, l'homme utilise ses œuvres, mais comme des œuvres, alors que nous avons tendance à sacraliser nos œuvres. Il y a une analyse du sacré qui me semble tout à fait intéressante dans un livre de 73 qui s'appelle « Les nouveaux possédés ». Il montre que la technique a tout désacralisé. Le monde a été désacralisé. Plus rien n'est sacré, ni la nature, ni le corps humain, ni la sexualité, etc. Il n'y a plus rien d'intime dans laquelle la technique n'a pas pénétré, n'a pas tout cassé. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun tabou. Et les derniers tabous, ils vont être profanés par la technique. Mais cette désacralisation du monde et de l'homme, de la technique qui ne respecte rien, En réalité, a suivi un processus étonnant, c'est que le vecteur de désacralisation, qu'est la technique, a pris sur lui-même le sacré. C'est-à-dire, ce qui est devenu sacré, c'est la technique. La technique a tout désacralisé, mais a capté le sacré sur elle-même. Eh bien, une éthique chrétienne, par rapport à la technique, c'est de la profaner. Profaner la technique, profaner, c'est-à-dire retirer le caractère sacré de nos œuvres. Je vous donne un exemple par rapport à l'argent. Quelle peut être une éthique chrétienne? Il ne dit pas « il faut faire comme ça hein, », il n'est pas légaliste, il dit « voilà ce que moi je propose pour moi ». Vous faites ce que vous voulez, mais voilà ce que je propose pour moi comme éthique très concrète par rapport à l'argent. Parce qu'il aborde toujours des questions très concrètes, hein. Ce n'est pas une éthique très spéculative. Pour l'argent, on est esclave de l'argent. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, on en veut toujours plus. Hein. Même si on en a, on en veut plus. Si on n'en a pas, on en veut. Si on en a un peu, on en veut plus. Donc, ça prouve bien que, que l'argent, c'est notre maître. Quelle pourrait être une éthique chrétienne par rapport à l'argent? Eh bien, il y a une chose pour laquelle l'argent n'est pas fait. Une chose pour laquelle l'argent n'est pas fait. L'argent, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour épargner, pour spéculer. Mais il y a une chose pour laquelle l'argent n'est pas fait, c'est le don. Eh bien, si vous voulez vraiment mesurer dans quelle mesure vous êtes libéré à l'égard de l'argent, donnez-le. Donnez-le abondamment, donnez-le généreusement, et ainsi retournez la puissance de l'argent contre l'argent, puisque l'argent n'est pas fait pour être donné. Hein, si tout le monde donne, ça ne marche plus. Donc, si vous arrivez à donner, et plus vous arrivez à donner, plus vous désamorcez cette puissance sacrée qui est attachée à l'argent. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tout donner, mais lui, il disait, ben voilà, moi je propose, mais ce n'est pas une loi, hein, moi je propose de donner tout ce que j'ai une fois que mes besoins de base sont satisfaits. C'est-à-dire, ne pas épargner, hein, il ne s'agit pas de mettre de l'argent à la banque. C'est-à-dire de donner tout ce qu'on a à chaque mois. Donner à qui vous voulez après, hein, mais donner à partir du moment où les besoins de base sont satisfaits. Si tout le monde faisait ça, à mon avis, ça changerait quelque chose. J'ai déjà écoulé le temps, est-ce que je peux prendre encore 2-3 minutes? Je vais quand même donner encore 2-3 éléments sur son éthique de la liberté. Vous l'avez compris, Jacques Ellul met l'accent sur le discernement. Il n'y a pas une loi, il ne nous dit pas « il faut faire comme ça ». Il nous dit à chacun de discerner dans sa situation qu'est-ce qu'il peut faire. Et les chrétiens ont l'habitude de prendre la Bible comme un livre de réponse. Hein. Quand on a un problème, on cherche dans la Bible et on cherche une réponse. Eh bien, lui, il ne disait pas du tout. La Bible, ce n'est pas un livre de réponse, ce n'est pas un livre de recettes, évidemment, mais ce n'est même pas un livre de réponse, c'est un livre de questions. C'est-à-dire que si vous entrez dans la Bible, si on peut s'exprimer ainsi, vous entrez dans la Bible avec vos questions, eh bien vos questions vont se trouver reformulées, déplacées, et puis vous allez sortir de la Bible, si on peut s'exprimer ainsi, avec d'autres questions, avec vos questions et avec d'autres questions. Et c'est à vous de discerner quelle doit être la meilleure attitude et de discerner quelle est la volonté de Dieu à travers les questions que Dieu pose à chacun dans la Bible. À travers la Bible, Dieu s'adresse à chacun et lui pose des questions. Il ne lui donne pas tellement de réponses. Il y a un point quand même que j'aimerais encore dire à propos du christianisme. Il a écrit un livre qui pour moi est certainement le plus décapant et le plus terrifiant pour les chrétiens, qui s'appelle « La subversion du christianisme ». La subversion du christianisme, qui est réédité en livre de poche, on le trouve, montre point par point, donc chaque chapitre est sur une thématique, montre qu'à partir de l'enseignement du Christ, qui est un enseignement subversif, c'est-à-dire qui subvertit l'ordre social, l'ordre moral, l'ordre religieux, l'ordre politique de son époque, hein, tout est questionné, tout est mis en question, tout est mis en cause par le Christ, à partir de cette subversion chrétienne que l'on trouve dans les évangiles, depuis 2000 ans, l'Église a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, à partir, disons, de Constantin, pas tout de suite, mais à partir de Constantin, d'un message qui était subversif sur le plan moral, les chrétiens ont fait une morale. Et en plus, une morale très culpabilisante, très moralisante, comme on dit. à partir d'une mise en question, d'une critique des pouvoirs politiques, l'Église s'est associée à collaborer avec tous les pouvoirs, tous les pouvoirs politiques, même les nazis, les communistes, la royauté, la République, tout. À partir d'un message chrétien qui est très subversif par rapport à la soumission de la femme dans l'attitude de Jésus, l'Église a soumis la femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a fait exactement le contraire, c'est-à-dire que la subversion chrétienne a été elle-même subvertie. C'est la subversion de la subversion. Heureusement, à chaque génération ou à chaque siècle, il y a ce que Ellul appelle un phare, c'est-à-dire un homme ou une femme qui a essayé de revenir au véritable, à la véritable source du christianisme et qui a opéré une subversion de la subversion de la subversion. Vous suivez, hein, le message du Christ qui était subversif avait été subverti par la chrétienté et a été de nouveau retourné par ses phares. Donc il cite un certain nombre d'hommes et de femmes, Saint François d'Assise, Kierkegaard, etc. Et donc, aujourd'hui, eh bien, il importe de revenir à la source subversive du christianisme et de revoir ce que le Christ nous dit au-delà de tout ce que les églises en ont fait. Je conclue en disant que Jacques Ellul, aujourd'hui, 16 ans après sa mort, aujourd'hui et demain, Jacques Ellul n'a jamais voulu avoir de disciples. Il n'aimait pas les disciples parce qu'il n'aimait pas ceux qui répètent ce que dit le maître. Il disait, c'est à vous, vous pouvez éventuellement vous appuyer sur ma pensée, mais c'est à vous de trouver ce que vous avez à penser par vous-même. Donc, il disait toujours, je veux renvoyer l'homme à lui-même, renvoyer l'homme à sa conscience, plutôt que de répéter comme des perroquets ce que j'ai dit. Et il appréciait beaucoup ceux qui étaient critiques vis-à-vis de lui, en s'appuyant sur lui et en entrant en débat. Je prépare actuellement un deuxième volume du livre sur Ellul, qui sera sur l'héritage d'Ellul, ceux qui se réfèrent à Ellul aujourd'hui, et je suis frappé de voir à quel point il a semé dans tous les domaines. On trouve des éluliens donc qui sont des disciples critiques. Pour être élulien, il faut être critique vis-à-vis du maître, et critique de diverses façons, mais dans tous les domaines, en science, en histoire, en théologie, en sciences politiques. J'ai même trouvé un préfet élulien, il faut le faire, c'était, alors qu'il était si critique à l'égard du politique, j'en ai trouvé un que je vais interviewer. Et donc, c'est assez fascinant de voir à quel point, finalement, on trouve ces semences, ces graines semées un peu partout. Je pense cependant que le succès de Jacques Ellul est à venir. Et je le vois prendre forme là, depuis quelques années, mais j'en voudrais pour preuve que la reconnaissance de Jacques Ellul est encore à venir. J'en voudrais pour preuve le succès qu'il a dans le monde entier aujourd'hui. Aux États-Unis, depuis très longtemps, on enseigne sa pensée. Alors qu'il n'a jamais été aux États-Unis, parce qu'il ne voulait jamais prendre l'avion. C'est ce qu'il disait. Donc on lui a proposé d'y aller en traîneau par le pôle Nord, mais il n'a pas voulu. Mais il ne voulait pas prendre l'avion, donc il n'a jamais été aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, tout le monde, on connaît Ellul comme en France, on connaît Sartre. Donc, il est très connu là-bas, on enseigne sa pensée dans les universités. Je précise qu'il n'a jamais pris non plus la voiture, parce qu'il n'avait pas de permis de conduire, et qu'il refusait absolument de prendre la voiture. Vous voyez le précurseur de l'écologie radicale qu'il était. Toujours les transports en commun. Mais je vois aussi, surtout, qu'il commence à être connu dans ce qu'on appelle les puissances émergentes. En Corée du Sud, il y a un projet de traduction. On a déjà traduit la moitié de son œuvre. On est en train de traduire tous les autres livres. En Argentine, au Brésil. Donc, dans ces puissances émergentes où on se confronte déjà aux retombées de la technique. On voit ce que c'est que la société technicienne. Je pense qu'on parlera de lui dans quelques années encore plus qu'aujourd'hui, mais pour aujourd'hui déjà, je trouve qu'il nous aide à comprendre notre condition moderne. Je vous invite vraiment à lire ses livres où il décrit notre monde d'aujourd'hui. Et pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, eh bien, il est très éclairant et très décapant pour la mission, pour ce que l'on peut définir comme la mission des chrétiens dans cette société complètement folle dans laquelle nous vivons. Voilà, j'ai un peu débordé, excusez-moi. Merci. Alors, merci pour cette question que je n'ai pas, abordée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un élulien inconditionnel et j'ai effectivement, personnellement, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam, mais son livre, il a écrit un certain nombre d'articles et puis un livre qu'il n'a pas publié de son vivant, mais qui a été publié après sa mort, qui s'appelle « Islam et judéo-christianisme ». N'étant pas spécialiste de l'islam, je me suis retourné auprès d'un très proche ami qui est un pasteur de l'église baptiste, mais qui est d'origine musulmane. Ses parents sont toujours musulmans, toute sa famille est musulmane, donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense. Et précisément, cet ami a fait son mémoire de maîtrise en théologie sur Elul et l'islam. Et lui, il m'a dit Elul ne connaît pas l'islam. Donc voilà. Il a des jugements un peu rapides sur l'islam, c'est-à-dire qu'il présente l'islam comme étant une religion extrêmement dangereuse, une religion violente par essence, et inversement alors son attitude vis-à-vis d'Israël, parce que pour lui Israël et l'islam, son jugement sur Israël et sur l'islam vont ensemble. C'est-à-dire qu'il a, dès qu'il s'agit d'Israël, de l'État d'Israël, j'entends bien, c'est assez étonnant. Et dès qu'il s'agit de l'islam, Jacques Ellul, qui était un homme, me semble-t-il, j'en ai peut-être pas assez rendu compte, mais d'une extrême rigueur intellectuelle, d'un pointillisme, quand il analyse en universitaire telle question, il a vraiment une méthodologie universitaire très, très performante. Dès qu'il s'agit de l'islam, il perd complètement sa méthodologie, sa rigueur. Et dès qu'il s'agit d'Israël aussi. Je pourrais vous donner des exemples éventuellement, mais c'est ça qui me fait dire, bon, là je ne peux pas le suivre, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais Quelqu'un qui connaît bien l'islam me dit qu'il a été très rapide sur certaines affirmations. Par exemple, le fait que les croisades, il affirme que les croisades ont été une imitation du djihad. Mon ami me dit c'est pas vrai, c'est pas l'islam qui est responsable des croisades, c'est un mouvement chrétien, hein, un dévoiement du christianisme, mais pas par mimétisme. Voilà, c'est un exemple. Lui, il sait. Bon, je n'ai pas la chronologie en tête. Je ne sais pas quand le djihad a commencé, etc. Et les premières croisades, voilà. Mais comment ? Le djihad a commencé avant les croisades ? Oui. Bon, enfin, en tout cas, voilà. C'est une question qui. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, chez Ellul, c'est que je connais pratiquement personne qui est d'accord avec Ellul sur tout. C'est-à-dire, il y a des gens tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent sur Israël et sur l'islam. Mais alors, ils ne sont pas d'accord sur d'autres points. D'autres qui sont d'accord sur d'autres points, mais pas là-dessus. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait d'Ellul un homme inclassable et un homme qui nous oblige à réfléchir, qui nous oblige à penser par nous-mêmes. Je sais pas.
Vous avez, à la fin de votre exposé, tracé implicitement un parallèle entre deux personnages. Alors, il n'y avait pas d'aspect critique dans la fin de l'exposé, et ce personnage, c'était un Palestinien qui est devenu célèbre et qui n'a été vraiment connu que assez longtemps après sa mort. Il était suivi par quelques disciples. Et ainsi a-t-on l'impression que maintenant, Jacques Ellul est une sorte de prophète à l'image de Jésus et qu'il nous ouvre des horizons nouveaux, qu'il nous fait recomprendre le message du Christ.
Alors, on a souvent dit de Jacques Ellul que c'était un prophète. Moi-même, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on lui disait qu'il était un prophète, lui refusait cette expression, parce qu'il le prenait au sens biblique. Un prophète, c'est celui qui parle au nom du Seigneur, et certainement pas celui qui prédit l'avenir. Donc lui, il disait, je ne suis pas un prophète, je suis ni Jésus, ni Nostradamus, hein, je ne suis pas quelqu'un qui prédit l'avenir ou qui parle au nom du Seigneur, mais je suis quelqu'un qui examine la situation actuelle et qui poursuit les courbes, voilà, en scientifique. Et donc, c'est ça, sa lucidité, c'est finalement, on voit les courbes, on voit que ces courbes sont exponentielles, alors on les poursuit. En général, on ne fait pas ça, mais lui, il faisait ça. Voilà ce qu'il nous dit. Et donc, il n'aurait certainement pas accepté le parallèle avec Jésus, certainement qu'il ne se serait pas présenté ni comme prophète, ni a fortiori comme Messie. En revanche, comme disciple de Jésus. Ça, c'est clair. Hein, il se dit disciple de Jésus et ça, il le confesse tout à fait. Comme disait monsieur tout à l'heure, il le confesse aussi devant un public non chrétien. Je donnerai juste une anecdote qu'on m'a racontée de quelqu'un qui était engagé avec lui dans un mouvement écologiste, notamment contre les centrales nucléaires. Il y a eu cette centrale nucléaire près de Bordeaux, dans l'estuaire de la Gironde, centrale de Blaye, je crois, qui a eu des problèmes au moment de la fameuse tempête de 99, hein, qui a failli coûter cher à cause de l'inondation de la centrale nucléaire. Et donc, Jacques Ellul était très engagé dans ce mouvement contre la construction de cette centrale, dans un mouvement écologiste qui n'était pas du tout chrétien. Il y avait peut-être quelques chrétiens, mais beaucoup de non-chrétiens. Et puis, ça a échoué, hein, le mouvement a échoué. Et on m'a raconté qu'à la dernière rencontre, dernière réunion, où ils ont été obligés de reconnaître que la centrale allait se faire, eh bien, il a pris la parole. Donc là, il a confessé sa foi devant un public non-chrétien en disant ben, « on a perdu ». On n'a plus d'espoir, mais moi, j'ai une espérance. Donc, mon espérance va au-delà de l'espoir. Il a dit ça. Donc, vous voyez, il n'avait pas peur de dire qu'il était disciple de Jésus dans toutes circonstances, y compris face à un public qui n'était pas du tout convaincu. Alors, la différence entre l'espoir et l'espérance, il a écrit un livre qui s'appelle « L'espérance oubliée », hein, c'est un livre qui est entièrement consacré à l'espérance et dans l'opposition à l'espoir. L'espoir, c'est hein, quand, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc l'espoir, c'est ce qu'on peut voir à vue humaine. On peut avoir de l'espoir tant qu'il y a de la vie. Et lui, il dit, ben, c'est quand il n'y a plus d'espoir qu'il y a de l'espérance. C'est-à-dire que quand tout est bouché, quand il n'y a plus aucune perspective à vue humaine, alors seul un surgissement de l'espérance au-delà de ce monde, au-delà de cette vie, hein, donc qui va au-delà de la mort. L'espoir, il est lié à ce qu'il y a avant la mort. Quand la mort est là, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a l'espérance. Et donc l'espérance, elle est l'espérance liée à la transcendance, à ce qui va au-delà de ce monde dans lequel il ne peut y avoir que de l'espoir. En fait, il n'y en a pas. Il y a plutôt du désespoir. Alors, c'est un juste, hein, il a la médaille des justes. Il a son nom gravé, je l'ai vu récemment à Paris, dans sur le mur des justes qui est près du mémorial de la Shoah. Donc il a sauvé un certain nombre de juifs à Martres, donc en Gironde, dans son village. Et il y a des témoignages. J'ai été voir le dossier à l'antenne de Yad Vashem à Paris, où il y a un certain nombre de témoignages. Donc il doit y avoir 4 ou 5 juifs qui lui doivent la vie. Et donc il avait, alors bon, on peut dire 2-3 mots encore de sa proximité, de ses affinités avec le monde juif. Elul est un nom juif. Hein. Elul, dans la Bible, il y a une occurrence d'Elul, c'est un mois du calendrier hébraïque. Hein. Il y a une occurrence dans la Bible. Avec un lamed, alors que Elul s'écrit avec deux L, mais bon, c'est quand même probablement... Donc il a des origines juives très lointaines. Très lointaines, c'est-à-dire qu'il n'avait pas... depuis des générations, ses ancêtres n'étaient pas juifs, mais il a des ancêtres lointains juifs. Il a écrit plusieurs livres au sujet par rapport aux juifs. Il montre à quel point il est en affinité avec le peuple juif. Et là, évidemment, moi, je le rejoins tout à fait. Mais il y a, on revient à la question d'Israël, il y a un moment où je ne peux plus le suivre. C'est lorsque, donc, à partir de Romains 9 à 11, il montre à quel point le peuple juif est important pour les chrétiens, hein, l'antisémitisme chrétien est une hérésie, est une abomination. Mais là où je ne peux plus le suivre, c'est lorsque il poursuit en disant l'État d'Israël, l'État actuel hein, d'Israël. Alors, tant qu'il dit les Juifs ont droit à une terre d'Israël, ça je le suis tout à fait, hein, et ont droit à la sécurité, etc., et à la paix. Et puis, mais il va plus loin, il va pour moi trop loin. Il dit l'État d'Israël est un État modèle. Alors c'est étonnant de la part d'un homme qui est si critique à l'égard de l'État, à l'égard de l'armée, à l'égard de la guerre, à l'égard de l'industrialisation, à l'égard de la technique. Et dès qu'il s'agit d'Israël, il dit « Mais Israël est un État modèle qui ne fait pas de propagande, dont les guerres sont justifiées. » Il va jusqu'à dire que les guerres préventives d'Israël contre le Liban sont justifiées parce que Israël a le droit de se défendre. Et donc, c'est une prévention pour se défendre. Et il va... même encore plus loin, là où moi ça me fait dresser des cheveux sur la tête, et donc c'est pour ça que je ne peux pas être élulien, mais je trouve bien qu'il puisse dire des choses qui nous font réagir. Il dit par exemple, les Palestiniens qui sont incarcérés dans les prisons israéliennes et qui ont témoigné, enfin dont Amnesty International a récolté les témoignages de torture, Jacques Ellul va jusqu'à dire, eh bien en réalité il ne peut pas y avoir de torture en Israël, donc... ces Palestiniens ont imaginé la torture que eux aimeraient faire subir à leurs geôliers. Oui. Pour moi, c'est de la folie hein, de dire ça. Désolé, excusez-moi, mais bon, je pense à l'impartialité d'Amnesty International. Mais voilà, donc ça montre à quel point Jacques Ellul était vraiment un homme avec ses travers. Il y a des dérapages comme ça, quelques-uns, notamment sur Israël et sur l'islam. Non pas sur les affinités avec le peuple d'Israël, mais avec finalement son aveuglement face à l'État d'Israël aujourd'hui. Et il dit, quel que soit le gouvernement, Israël a toujours raison. Israël, l'État d'Israël a toujours raison. C'est là que je ne suis pas. Oui.
Vous l'avez précisé à un moment, le Christ libère, de façon générale.
Oui.
Alors, il y a donc une différence à faire entre le Christ, son enseignement, et la façon dont on le vit, et ce que l'Église a fait du Christ. Mm-hmm. Parce que l'Église ne libère pas. Mm-hmm. C'est une dictature qui a été, au fil des siècles, aussi abominable que les pires dictatures.
Alors, avec d'autres termes, Ellul dirait presque la même chose. Effectivement, il fait la différence entre le christianisme et la chrétienté. Hein, c'est-à-dire, le christianisme, c'est... Et en cela, il s'inspire de Kierkegaard. Hein, si vous connaissez Kierkegaard, Kierkegaard avait tout à fait cette position-là. Il était même très virulent vis-à-vis de son église, de l'église luthérienne du Danemark à son époque. 19e siècle, en disant l'Église a fait le contraire de ce que le Christ a enseigné. Et donc, il distinguait déjà christianisme et chrétienté. Et la chrétienté, c'est la subversion du christianisme. C'est-à-dire que alors, l'Église, qu'est-ce que l'Église, hein? Après, il y a des églises, et il y a des moments dans l'histoire, etc. Et il y a des phares qui sont aussi dans l'Église, mais qui, cependant, se sont levés contre la perversion que l'Église a fait subir au message de son fondateur. Et donc, tout à fait, Ellul distingue nettement le message du Christ qui nous est parvenu, heureusement, grâce à ses phares, hein, c'est grâce à eux qu'on l'a quand même, et puis ce que l'Église, d'une façon majoritaire, a fait, les Églises ont fait depuis 2000 ans. Ah, c'est difficile comme question. J'ai la liste des livres ici. Alors, tout dépend, moi je dirais, tout dépend de vos centres d'intérêt. Si on veut aller au cœur de la pensée d'Ellul, mais là, si vous dites des livres pas difficiles, c'est peut-être pas une bonne idée, mais disons qu'il y a une trilogie, il y a une trilogie éthique. Une trilogie sur la technique, c'est la technique ou l'enjeu du siècle, le système technicien et le bluff technologique. Mais ce sont des gros livres et ils ne sont pas très faciles. Mais en même temps, c'est ça le cœur de sa pensée sur la société technicienne. Et puis il y a une trilogie éthique qui est le vouloir et le faire, l'éthique de la liberté et les combats de la liberté, qui sont aussi des gros volumes et qui ne sont pas faciles. Donc voilà, alors après, si vous voulez des livres faciles, je pense quand même que la subversion du christianisme est relativement facile. Sinon, moi, je vous conseillerais les livres d'entretien de Jacques Ellul. Donc, il y a un livre d'entretien avec Patrick Chastenet qui s'appelle Entretien avec Jacques Ellul de Patrick Chastenet, qui a été publié juste l'année de sa mort en 1994, donc qui n'a pas été réédité mais qui n'est pas épuisé. Et puis, un autre livre d'entretien, mais celui-là, je... Ah oui, voilà, il y a un livre d'entretien... Oui, un autre livre d'entretien, mais il est épuisé, donc ce n'est pas la peine que je vous le dise. Mais il y a un livre qui est Ellul par lui-même. Je ne sais pas si on l'a, il me semble qu'on l'a, qu'il est sur la table. C'est un petit livre, ça c'est certainement celui-là que je vous conseillerais. Ellul par lui-même, entretien avec Willem van den Boer, qui est sorti il y a 2 ans, en 2008, en livre de poche, donc pas cher, petit, et qui fait le tour de la... Ellul se présente lui-même en faisant le tour de sa pensée. Donc, les entretiens avec Patrick Chastenet et les entretiens avec Van den Boer. Et puis, si j'ose, je conseillerais le mien, parce que le mien, il fait le tour de la pensée d'Ellul, alors en 400 pages et pas en 150 pages, mais j'ai essayé précisément, de manière, j'espère, pas trop ardue, de rendre compte de la totalité des aspects de la pensée d'Ellul. Oui. Pas tous, une partie. Hein. Oui, mais Ellul a écrit dans Réforme 200 articles. Hein, donc là, il y en a à peu près. Voilà, il y en a une quarantaine, effectivement. Et c'est effectivement. C'est un hors-série du journal Réforme. Non, il n'est pas épuisé, il est toujours disponible et qui date de 2004, puisque c'était pour les 10 ans de sa mort. Donc c'est, voilà, c'est Jacques Ellul, Actualité d'un briseur d'idoles, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, Jacques Ellul, Actualité d'un briseur d'idoles, 50 ans de chronique dans Réforme, 2004. Effectivement, c'est pas mal. Ça permet de rentrer dans... Ben, ce sont des articles sur différents sujets théologiques et sociologiques et éthiques.